Bonjour tout le monde et bienvenue à une émission du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Azerbaïdjan, probablement avec quelques aides qui reflètent comment s'est senti lors de ce Grand Prix. Et pour justement discuter de cette course, j'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Je vais pas te dire comment ça va, mais je vais te dire est-ce que tu as tenu le coup.
Écoute, on aurait pu dormir durant ce Grand Prix-là, ça c'est sûr. Ça a été vraiment d'un ennui total. En plus, c'est très rare. Là. On est quand même chanceux habituellement à Bakou, on a des bonnes courses. Fait que là, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais on a été malchanceux.
Ouais. Écoute, ça arrive d'avoir des courses plates, mais celle-là, c'en était une. Donc, non, ça a été... ça pas été vraiment, vraiment... ouais. Bref.
Il n'y a pas eu d'incident non plus pour agrémenter le tout. Tout le monde attendait un drapeau jaune qui n'est jamais venu. Il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ça soit une course de cette façon-là. Habituellement, quelqu'un colle le mur, pas gravement, puis on a un drapeau jaune. Là, c'est pas arrivé. Donc...
Ouais, exact. Donc, non. Et il y en a qui ont payé le prix. Il y en a qui ont payé le prix de ne pas avoir eu une deuxième voiture de sécurité. Bref, on reviendra là-dessus. Donc, je vous donne tout de suite le classement du Grand Prix. Donc, victoire de Sergio Pérez, sa deuxième à Bakou. Mais aussi, il devient officiellement le premier pilote avec plus qu'une victoire sur le circuit urbain de la capitale de l'Azerbaïdjan, devançant Max Verstappen. Et Charles Leclerc obtient son premier podium de la saison avec une troisième place. Fernando Alonso termine quatrième et, très intéressant, à moins d'une seconde de Leclerc. Carlos Sainz finit cinquième. Lewis Hamilton, sixième. Lance Stroll, septième. George Russell, huitième. Lando Norris, neuvième. Et Yuki Tsunoda termine dixième. Le meilleur tour a été attribué à George Russell dans le dernier tour. Et nous avons perdu deux pilotes. Zhou Guanyu au 36e tour et Nyck de Vries au 9e tour. Marc-André, alors on va te passer tout de suite au classique évaluation. Donc, ta performance du jour, contre-performance et moment cocasse.
Je vais commencer par ma performance du jour. Je vais la donner à Fernando Alonso qui, encore une fois, a connu une course splendide. Dès le début, dès le premier tour, a fait l'un des plus beaux dépassements de la saison sur Carlos Sainz à un endroit peu atypique pour un tel dépassement. Il s'est vraiment bien comporté en piste. Il a été chanceux aussi. Il a pu faire son arrêt au puits sous la voiture de sécurité, a devancé Hamilton de cette manière, comme plusieurs autres pilotes. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé sa course. Je pense que tu vois qu'il a du plaisir cette année. Ça paraît. C'est un pilote qui a encore une fois connu une grande course. Puis écoute, à une seconde du podium, ça aurait quand même été beau pour lui de pouvoir en mettre un autre dans sa poche. Mais en gros, je pense vraiment qu'il doit être content de la manière dont cette course-là s'est déroulée. Son coéquipier Lance Stroll a eu un petit peu de malchance, a collé le mur, ça l'a désavantagé, mais Alonso a connu un sans faute.
Oui, carrément. Alonso a été très bon et surtout, chapeau à Aston Martin pour leur travail d'équipe. On en reparlera aussi un peu plus tard dans cet épisode, mais chapeau à Fernando Alonso d'avoir réalisé un sans faute et une belle quatrième place dans les standards. As-tu une contre-performance?
J'irais peut-être encore avec les Ferrari. Encore une fois, complètement incapable de garder les pneus en bon état. La dégradation des pneus est incroyable depuis le début de la saison. Et encore une fois, c'est un peu ça qui a fait mal à Ferrari. Leclerc qui partait en tête. On savait que ça allait pas tenir, mais quand même, écoute, il finit à 16 secondes de Verstappen. C'est vraiment difficile de conserver les pneus depuis le début de la saison et on a encore eu une preuve en fin de semaine. Je pense que ce serait ça ma contre-performance du jour. Malgré que tu vois que la voiture est en meilleur état, tu vois que les améliorations qui ont été faites en Australie, que nous n'avons pas pu vraiment voir en raison de l'incident dès le premier tour de Leclerc en Australie. On voit que ça s'est amélioré, mais quand même, je pense qu'il y a du travail à faire encore, là.
Ouais, ben je sais pas si je pourrais donner une contre-performance à Ferrari dans les circonstances, parce que on va se dire, la Red Bull était sur une autre planète.
Oui.
Mais
je suis d'accord.
Charles Leclerc a fait du mieux qu'il a pu, a été quand même capable. Oui, c'est vrai que la gestion des pneus est définitivement à améliorer. Et la dégradation, devrais-je dire, la dégradation des pneus est à améliorer. Mais je trouve que ils ont fait le travail. Bon, plus du côté de Charles Leclerc, mais Carlos Sainz était loin d'être dans le coup, en tout cas en fin de semaine.
En fin de semaine, c'était très difficile. Ben, il a dit dès les premiers coups de roue qu'il ne se sentait tout simplement pas bien dans la voiture. Ouais. Puis malheureusement pour lui, c'était une course sprint, donc aucun moment, pas assez de temps pour régler encore la voiture. Est-ce que c'est des décisions à l'interne de Ferrari sur la voiture de Carlos Sainz qui a fait défaut? Peut-être. Ça, on va peut-être en savoir un petit peu plus durant la semaine.
Ouais.
Mais effectivement, je pense que je vise plus la voiture en tant que telle que les pilotes cette fois, en fin de semaine.
Ouais, donc non, c'est ça. Je pense que c'est... Mais au moins, il y a une amélioration.
Mm-hmm.
Et moment cocasse?
Je pense que c'est Hülkenberg et Ocon qui attendent jusqu'à la dernière seconde pour faire un changement au puits.
Ouais.
Ils attendaient cette fameuse voiture de sécurité qui n'est jamais venue. C'est toujours un pari de tenter le coup, mais impressionnant quand même. Bonne gestion de pneus pour tenter d'aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas ça qui rend le spectacle époustouflant, bien sûr, mais quand même, on aime toujours voir des pilotes réussir un tel exploit. Malheureusement, ils n'ont pas pu en profiter au maximum comme ils le pensaient, mais c'était quand même cocasse là, de voir qu'ils se sont rendus aussi loin.
Ouais, et pendant que tu parlais, excuse-moi, j'étais en train d'écouter justement le principal intéressé, Nico Hülkenberg, qui justement expliquait pourquoi ils ont attendu tellement longtemps avec... avant de revenir, avant de s'arrêter au final. Donc, exactement, ça, ils attendaient la voiture de sécurité. Puis, ouais, je pense que c'est... Et en plus, Hülkenberg était parti de la ligne des puits pour des changements effectués sous le parc fermé. Donc, Haas a pris un pari. Donc, c'est un pari qui n'a... pas vraiment fonctionné au final, mais on en reparlera, entre autres, un peu plus tard. Sinon, moi, ma performance du jour, je vais la donner à Sergio Perez. Par défaut, c'était une bonne performance de sa part, une victoire en sprint et une victoire à Bakou, encore une fois. Et encore une fois, sur un circuit urbain. Contre-performance, je vais la donner à Nyck de Vries, qui a été complètement à la traîne et dans le mur. Pas une, mais deux fois. Et moment cocasse, je ne vais pas vraiment donner un moment cocasse. Je vais plutôt donner, pour reprendre l'expression de mes amis au Cannes Football Club, shameless plug, et pas une référence à carte du tout, un gêleur de foin complètement dangereux de la part de certains photographes lorsque justement Esteban Ocon s'est arrêté au puits. Je pense qu'on a tous vu l'image de Ocon arrivant dans la ligne des puits avec des photographes qui se préparaient déjà à prendre des photos de l'éventuel vainqueur, mais qui oublient qu'Ocon devait s'arrêter au puits. Ça, c'était absolument dangereux. On a frôlé la catastrophe. Et surtout que ça arrive un peu plus d'un an après que Alex Albon avait fait de même, s'est arrêté dans le dernier tour du Grand Prix et on commençait déjà à préparer la réception du podium. Ils ont oublié que la course n'était pas encore terminée, donc c'était extrêmement dangereux. Et surtout que c'est littéralement le Grand Prix après que des fans se soient retrouvés directement sur la piste avant même la fin du Grand Prix en Australie. Donc, il va y avoir quelque chose que la FIA devra faire pour éviter d'avoir ces problèmes, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est Et c'est malheureusement pas la dernière fois si jamais la FIA ne fait pas quelque chose. Parce que oui, on n'était pas très content d'apprendre que la FIA a limité les célébrations des mécanos sur le grillage séparant le muret des puits et la ligne de départ arrivée. Mais il y a une raison pour laquelle ça a été renforcé. Maintenant, quand tu vois ça, on comprend mieux pourquoi la FIA est en train de renforcer tout ça pour éviter d'avoir des catastrophes frôlées comme ce qu'on a vu avec Ocon, comme ce qu'on a vu avec Albon à Melbourne l'année dernière. Donc, ça, c'est un vrai moment, j'ai l'air d'un foin. Et j'espère que la FIA va sévir auprès de ses photographes. Parce que la course n'était pas terminée.
Exact. Puis, tu sais, là, en plus, on pouvait s'attendre à ce que Ocon entre, mais il y a des incidents qui peuvent arriver, qu'un pilote arrive sans qu'on s'y attende aussi à la fin d'une course. Donc, c'est ce qui rend la chose la plus dangereuse. Puis, je pense que la FIA, effectivement, va devoir sévir et va devoir, elle aussi, avoir une responsabilité du fait qu'elle ne doit, selon moi, pas envoyer de photographes aussi rapidement sur la piste alors que la course n'est pas finie. Écoute, Bakou, c'est un circuit de 16 km. Là. Avant que le vainqueur arrive, tu as du temps. Là. Donc, je pense vraiment qu'il y aurait quelque chose à revoir. Là.
Et on s'entend. C'est pas parce qu'une Formule 1 roule à 80 km que l'impact possible est moins dangereux. Donc, c'est quand même 80 km/h. Avec une voiture normale, ça fesserait pas mal. Je vais pas assumer que ça, là, mais c'est quand même dangereux. Donc, je pense que ça, on n'aura peut-être pas fini d'en entendre parler, et surtout que le prochain Grand Prix, c'est la semaine prochaine. Alors, je pense que la FIA va devoir réagir le plus vite possible. Bon, parlons du Grand Prix en tant que tel. Perez, vainqueur à Bakou. Comme j'ai dit en début d'épisode, c'est le premier pilote avec plus de 2 victoires sur le circuit urbain de la capitale azérie. Il a bien géré la course, mais disons que ça a été une victoire qui lui a été offerte, gracieuseté de la voiture de sécurité et le fait que Max Verstappen se soit arrêté juste avant lui.
Exactement, ça ne lui enlève rien sur la performance qu'il a fait aujourd'hui. Il a été sans faute. Il a été bon pour ne pas faire d'erreur, pour garder la voiture en piste, pour garder un rythme de course intéressant qui lui gardait une petite assurance-vie là, sur Verstappen. Il n'a jamais pu l'attaquer. Il y a eu 2 chances, en fait, Perez. Il y a eu premièrement la voiture de sécurité qui lui a offert la première position. Et ensuite, il y a aussi ce qui semble être un problème avec la voiture de Verstappen qui lui donnait des soucis à tourner de manière, disons, optimale. J'ai hâte de lire après le podcast là, pour voir ce qui s'est passé du côté de sa voiture. Est-ce qu'on va avoir des détails? Est-ce qu'il y avait vraiment un souci? Parce qu'il semblait avoir beaucoup de difficultés dans la fin de virage. On a souvent vu à la rediffusion mondiale Verstappen qui colle les murs. C'était pas un collage de murs normal, disons. Là. Donc, j'ai hâte d'en apprendre plus. Mais effectivement, Perez, c'est tout à son honneur, cette victoire. Et il a bien fait. Il a profité de toutes ses occasions et la petite chance offerte à Verstappen. Puis, tu sais, c'est un peu un retour d'ascenseur parce qu'on se souvient à Jeddah l'an dernier, la malchance avait tourné du côté de Perez. Il avait rentré tout juste avant une voiture de sécurité. Verstappen avait pris la tête et ça lui avait permis de gagner ce Grand Prix. Donc, je pense que c'est un retour d'ascenseur un an plus tard. Mais grand bien. Hein, la course au championnat est toujours ouverte. Puis j'ai aimé le fait que Red Bull ne s'interpose pas dans cette course. Je pense qu'on a l'air de vouloir les laisser se battre. Perez n'a jamais été aussi confiant. Donc, je pense que l'attitude de Red Bull pour le moment dans cette course au championnat me semble optimal et préférable.
Oui, et je pense qu'on voit Perez pour ce début de saison en meilleure forme, en espérant que ça continue comme ça, parce que dans le passé, ça a été souvent il y a eu beaucoup de moments d'inconstance qui lui ont coûté cher chez Red Bull. Mais là, on semble voir mieux que ce qu'il a offert l'année dernière. Donc, déjà 2 victoires cette année. Donc, la première à Jeddah, l'autre à aujourd'hui même à Bakou. Et si on peut compter aussi le sprint de samedi. Donc, Perez a été capable de vraiment bien gérer tout ça. Et j'espère que ça va continuer, surtout que là, on va être sur une séquence de 4 Grands Prix en 5. Ben là, on est déjà dans une séquence de 5 Grands Prix en 6 fins de semaine. Ça continue à Miami. Donc là, on va voir de quel bois il se chauffe. Et évidemment, on s'attend à une bataille pour le championnat, ce que je ne pense pas, mais Perez fait une solide job actuellement. Pour Verstappen, moi, je pense qu'il a été vraiment malchanceux. Le fait que l'abandon de Nyck de Vries ait amené la voiture de sécurité un peu plus tardivement que d'habitude a fait que Verstappen, bon, il s'est arrêté, mais il s'est fait prendre. Et ça lui a coûté quand même pas une, mais 2 positions au final. Parce que, bon, à la relance, il a été capable de revenir sur Charles Leclerc assez facilement. Mais pour la suite, ça a été juste une... Même si les 2 Red Bulls se sont poussés, Perez et Verstappen ont poussé à presque chaque tour. On l'a vu aussi avec les reprises très approchées des murs, en fait. Que ça poussait. Puis je pense que j'avais aussi entendu Verstappen qui n'était pas satisfait des réglages entre le différentiel et, je pense, la cartographie moteur, si je me souviens bien. Donc, ça aussi, ça a pu jouer un peu en la défaveur de Verstappen, mais je pense que c'est un résultat qui va prendre relativement bien.
Exactement. T'sais, je pense, malgré la malchance, il a réussi à limiter les dégâts en allant chercher rapidement Leclerc. En fait, c'était le seul objectif, c'était ça. C'est de rapidement reprendre la deuxième position pour tenter peut-être une attaque vers Perez un petit peu plus tard dans le Grand Prix. Malheureusement, ça ne s'est jamais présenté. Il a tenu, là, Perez a toujours tenu Verstappen à peu près à 2.4. Peut-être même des fois à 3.5 secondes sur la tête. Donc, effectivement, je pense que Verstappen n'avait pas l'air trop déçu, trop d'amertume vis-à-vis ce résultat. Je pense qu'il aurait aimé sûrement gagner. C'est un combattant, Verstappen. Mais reste-t-il que je pense que le résultat d'équipe en ce moment est préférable. Il tente toujours de gagner le championnat des pilotes ainsi que le championnat des constructeurs. Je pense que le fait que, justement, la tenue de route de Leclerc n'était pas optimale en fin de semaine, je pense que ça c'est quelque chose que les pilotes Red Bull ont aimé.
Ouais, effectivement. Donc, ça a quand même été dans les circonstances. Ça a été un week-end. Un autre bon week-end pour Red Bull, donc ça c'est une bonne chose. On parlait justement de la malchance dans les puits. Verstappen n'était pas le seul aussi. Il y a eu Lewis Hamilton, il y a eu Lando Norris, Niki Tsunoda qui se sont arrêtés un peu plus tôt avant la présence de la voiture de sécurité. Hamilton a été un de ceux qui a pu reprendre sa position quand même, mais il a été longtemps derrière Carlos Sainz en fin de course aussi. Donc, on pourrait dire que ça ne l'a pas avantagé, mais il a été capable de s'en tirer à moindre coût quand même. Donc, c'est le timing, si on peut dire. Justement, on va parler de Nyck de Vries parce que c'est lui qui a été la source de cette présence de la voiture de sécurité. Je l'ai mentionné, il a tapé deux fois le mur en fin de semaine. Le premier étant lors de la séance de qualification, ce qui a fait en sorte qu'il est parti dernier. Il s'est qualifié dernier. Samedi, lors du sprint, s'accroche avec Yuki Tsunoda. Donc, n'a pas respecté la règle d'or de la course automobile, malheureusement. Et là, aujourd'hui, tape le mur au virage 5, brise la suspension, forcé d'abandonner. C'est pas un bon début de saison. Je comprends, Nick DeVries est une recrue, mais je pense qu'on s'attendait à mieux de sa part.
Complètement d'accord. C'est un début de saison difficile. On s'attendait à mieux. C'est un pilote expérimenté, pas en Formule 1, mais en course automobile en général. Donc, je pense qu'on s'attendait à ce qu'il soit capable de présenter de bons résultats, une constance et éviter des erreurs de recrues. Mais visiblement, son adaptation en Formule 1 ne se fait pas comme il le voulait, comme il le voudrait. Sûrement que Toro Rosso. AlphaTauri également, n'est sûrement pas si satisfait que ça. J'ai hâte de voir si on va être patient avec lui. On parle toujours que la filière Red Bull / AlphaTauri n'est pas très patient à l'occasion avec certains pilotes. Moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'il prenne ses aises. Effectivement, là, c'est deux erreurs qui font mal en fin de semaine. Il n'y avait aucune raison que cet incident arrive aujourd'hui. Outre une erreur d'inattention, une erreur de justement, on dirait une erreur de recrue, mais il n'y en est pas une. Là. Il y a 27 ans, puis il y en a du millage derrière le volant. Donc, je trouve ça un peu plate qu'il ne soit pas capable de s'adapter comme il le voudrait. Forcé d'admettre que je pense que AlphaTauri va lui laisser quelque chose. Il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent.
Ah oui, clairement. Et surtout que présentement, il y a Liam Lawson qui fait bien en Super Formula. Il y a Lawson, il y a Ayumi Iwasa aussi qui fait bien en Formule 2. Donc, ça commence à pousser. Là. Il y a deux potentiels pilotes qui, si jamais les résultats sont bons, pourront trouver un moyen de remplacer DeVries. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite en aucun cas. Mais si jamais Red Bull ne trouve que DeVries ne livre pas assez la marchandise, ben là, je pense qu'ils vont agir. Et juste avant de passer au prochain sujet, Marc-André, la FIA vient de convoquer les responsables du parc fermé après l'incident de Ocon dans la voie des stands.
Génial. Donc, je suis très content de cette décision. Est-ce que tu as vu la vidéo embarquée de Ocon?
Oui, oui. Oh,
c'est effroyable.
C'est effroyable. Et en décélération en plus. Donc, ouais, non, c'est...
Non, je non, n'aurais non. pas aimé être Ocon à ce moment-là parce que, écoute, il peut rien faire. Il est arrivé là, puis il y avait le dernier qui s'est enlevé. C'était une question de seconde, là, vraiment. De millième de seconde même.
Ouais, exact. Donc, comme je l'ai dit, on a évité une catastrophe du côté de... On a évité une catastrophe du côté de la FIA. Mais ils vont devoir se poser des questions. Et on va revenir un peu sur Ferrari. Moi, je pense que c'est de loin leur meilleur week-end de la saison avec le podium de Charles Leclerc qui, malheureusement, n'a pas été en mesure de convertir une pole position à Bakou pour une troisième année consécutive. Et là, si tu ajoutes le sprint, c'est 4 en 4. Mais là, cette fois-ci, comme en 2021, il était, on pourrait dire, excusez-moi l'expression anglophone, he was a sitting duck. Marc-André?
Excuse, petit problème technique. Oui, effectivement, ça, comme je disais tantôt, Leclerc a été dans la course, mais sa voiture ne lui permettait pas de pousser à son maximum. C'est encore un peu l'ADN là, de cette voiture qui vient hanter Leclerc et Carlos Sainz. Mais tu vois que ce que je trouve encourageant, c'est qu'en vitesse de course, en rythme de course, la voiture semble plus à l'aise. Moins de sous-virages, moins de problèmes en virage lent. Ça l'a permis à Leclerc de quand même être efficace. On l'a dit sur un tour en qualification, ça a été super positif. C'est vraiment un rythme de course ensuite qui s'est fait complètement dominé par les Red Bull, mais ça, c'est assurément... on n'est pas surpris de ça. Mais en un tour, ils se sont vraiment améliorés en virage lent. Puis c'est tellement important à Bakou également. Je pense que les réglages étaient bien choisis aussi pour Leclerc. Puis ça a donné la fin de semaine qu'on connaît. Un premier podium pour Leclerc. Je pense qu'il va pouvoir construire là-dessus pour les prochaines courses. Il doit quand même, j'ose croire, sortir de Bakou avec un sourire. Puis le prochain, c'est Miami. Puis on va pouvoir voir un peu comment ça va aller. Après ça, c'est Monaco. Monaco, c'est des virages lents. Très peu de vitesse de pointe. Donc, peut-être qu'il pourrait avoir du positif qui s'en vient pour Ferrari.
Ouais. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que quand même, on a vu lors du Grand Prix, surtout plus du côté de Carlos Sainz, et un peu en Azerbaïdjan, quand les deux voitures étaient encore en piste, qu'il y a un certain potentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu, mais comme on l'a mentionné, c'est vraiment comment je dirais ça? C'est vraiment un problème de dégradation des pneus, mais je dois dire... je dois dire quand même, c'est bon. C'était pas si... c'était pas si pire que ça. Au moins, Leclerc et Sainz ont été capables de résister aux attaques d'Alonso et d'Hamilton. Donc, ça, au moins, c'est un positif. Je pense que, au moins, surtout avec Imola qui arrive, la première des deux courses locales, il y a quand même quelque chose de positif à tirer.
La seule chose que j'ajouterais, c'est que je pense que Ferrari a quand même été chanceux dans le sens que tout le monde était sous une stratégie de conserver les pneus jusqu'à la fin. S'il avait fallu que soit Alonso ou Hamilton soit sur une stratégie différente, je pense que le résultat aurait été bien différent. Mais effectivement, je pense que ça n'a pas été catastrophique, mais ça aurait pu être beaucoup mieux.
Ouais, ça aurait pu être mieux. En effet, je suis d'accord. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le maximum qu'ils ont pu? Moi, je pense que oui. Donc, tu sais, je pense que ça aurait pu être pire. Ils auraient pu se retrouver genre hors du podium et sixième. Et ça aurait fait mal. Mais au moins, ça s'est mieux passé que je le pensais. Parce que je me disais, est-ce que Ferrari allait faire ce qu'ils font d'habitude et botcher leur stratégie? Je pense qu'ils ont été assez conservateurs. Donc, ça, c'est bien. Du côté de Mercedes, on a parlé de Lewis Hamilton, mais George Russell, ça a été bon. Ben, parti 11e, fini quand même 8e. Mais une course un peu brouillonne, surtout à la relance. Il était devant Stroll après ce dépassement dans les puits sur le Québécois. Mais là, mais perd instantanément sa position lorsque la course reprend. Je crois que Russell va être content de partir avec 5 points puisqu'il a obtenu les points de la 8e place plus le point Bunny. Mais je pense que Russell a été un petit peu brouillon aujourd'hui. Et Hamilton, on l'a dit, malchanceux lors de son entrée, lorsqu'il s'est arrêté avant la voiture de sécurité, faisant en sorte qu'il a été poussé, mais il a été capable de revenir au front, même s'il n'a pas été en mesure de tenter une attaque sur Carlos Sainz.
Exactement. Je pense que tu as choisi les bons mots, brouillon. Je pense que ça résume super bien la course de Russell. Part 11e, réussit quand même dans les points, obtient le point, le bonus, en rentrant au puits, chaussant des pneus tendres à la fin de la course pour enlever le point bonus à Verstappen. Mais effectivement, ça a été brouillon lors de la relance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas pu réussir à optimiser sa vitesse. Il s'est vraiment fait dépasser par Stroll rapidement. Donc oui, je pense que en général, tu peux pas être insatisfait quand tu pars 11e puis tu termines dans les points, mais je pense qu'il aurait peut-être aimé ça, réussir à obtenir une position de plus.
Exact. Je pense que c'est le max. Et si on parlait de maximum, je crois que ça, c'était le maximum que Mercedes a pu atteindre. Donc,
mais tu vois à quel point cette voiture-là a changé depuis le début de la saison aussi. Puis ça, c'est super encourageant pour les pilotes.
Ouais, oui, ça c'est vrai. Et là, on va voir sur des circuits, par exemple Barcelone. Moi, je pense que ça va être encore le point de repère pour voir quel va être l'ordre d'ici le reste de la saison. Parce que Barcelone, c'est un circuit, bon, on n'a pas testé là-bas cette année, mais c'est quand même un circuit qui peut révéler bien des trucs. Donc, d'ici là, Mercedes va espérer avoir fait encore plus de gains d'ici l'épreuve à Barcelone. Aston Martin, Alonso 4e, encore une belle performance de la part de l'Espagnol. Lance Stroll 7e. Et ça aussi, ça a été quelque chose parce qu'Aston Martin a eu bien des problèmes intermittents avec leur DRS. Ça s'est réglé pour autant pour le sprint pour le Grand Prix. Quand même, j'ai trouvé qu'on a vu aussi, on l'a entendu, que les deux ont travaillé en équipe. On a entendu Lance Stroll dire à son ingénieur de piste, parler indirectement à Fernando pour lui dire que je ne vais pas, qu'il n'allait pas l'attaquer. Et Fernando de répondre, oui, il peut. De toute façon, on va se rapprocher d'Hamilton parce qu'il commence à avoir du graining. Alonso qui suggère à Stroll certains réglages au niveau des freins. Ce qui n'a malheureusement pas fonctionné parce que quelques temps après, Stroll a fait une petite erreur qui a permis à Lewis Hamilton de le dépasser. Mais on voit que commence à avoir de la synergie entre les deux. Et puis, honnêtement, entre ces deux-là, même avant qu'ils soient coéquipiers chez Aston Martin, ils se sont frottés quelques fois en piste, mais ça n'a jamais été genre... Il n'y a jamais eu un manque de respect. Les deux se respectent très bien, puis je pense que ça, au moins, ça peut aider. Stroll performe bien cette saison. Alonso fait une job remarquable chez Aston Martin aussi. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, pour une bonne partie, c'est prometteur pour le reste.
Totalement, vraiment prometteur. Je pense vraiment que les deux semblent sur la même longueur d'onde. Ils voient le potentiel d'Aston Martin, puis les deux, je pense qu'ils veulent pas le gâcher ça pour des raisons personnelles. Autant qu'Alonso est en bonne posture présentement pour devancer Stroll au classement, mais je sens vraiment un bon respect entre les deux. Stroll qui a voulu vraiment que Alonso se concentre sur Hamilton au lieu de penser et regarder dans son rétroviseur pour une future attaque de Stroll. Est-ce que c'était une tentative aussi d'endormir un peu Alonso? Peut-être. Ça, on ne sait pas. Puis le surprendre à un virage. Mais effectivement, je pense que d'ordre général, ça a été une belle course pour Aston Martin. Je pense que Stroll aurait aimé un meilleur résultat. Il a frotté le mur. Ça l'a un peu gâché sa vitesse de pointe. Ça l'a un peu gâché son rythme de course qui a ralenti un peu sa voiture qui n'a pas pu aller au maximum de son potentiel, selon moi. Mais malgré tout, 4e position, 7e position pour Aston Martin, on en sort gagnant quand même. On est allé chercher des points importants pour la fin de la saison. On a aussi pu voir que la voiture avait un bon rythme, encore une fois, puis que ça ne sort pas de nulle part. Puis là, on s'en va à Miami et j'ai très hâte de voir cette voiture sur ce circuit. Je pense que ça pourrait être une voiture qui prenne sa place.
Oui, ouais, j'ai très hâte aussi de voir ce qu'Aston Martin a encore dans le ventre. On va revenir sur Ocon, Hülkenberg et deux des pilotes qui ont débuté avec la gomme dure, mais qui sont restés jusqu'au dernier tour pour rester en fait avec la pour rester avec ses pneus et partir avec disons la gomme médium ou la gomme tendre, ben, en fait plus la gomme tendre pour aller chercher des places en cas de voiture de sécurité, et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc ils ont vraiment attendu, puis je pense que Bottas était aussi un de ceux qui s'est arrêté, mais qui avait débuté en dur, si je me souviens bien, et qui s'est arrêté un peu plus tôt. Mais force est d'admettre que la stratégie n'a jamais fonctionné au final. Et d'ailleurs, j'ai été impressionné de voir que les positions ont été gelées pendant des tours et des tours et des tours. Surtout que eux, Ocon et Hülkenberg étaient 9e et 10e. Pendant tout le long de la course, jusqu'à ce que les pneus atteignent leur limite et que Norris, Tsunoda et compagnie viennent les dépasser avant qu'ils fassent leur arrêt au puits.
Exactement. Je pense que tu as vraiment bien résumé la situation.
Ouais. Et d'autant plus si on a entendu l'ingénieur de piste de Nico Hülkenberg dire « Tiens le coup, Nico. Il nous faut juste la voiture de sécurité et ensuite, on va rentrer. » Ça ne s'est jamais produit et ça a fait mal à Hülkenberg. Donc, et à Ocon aussi. Parce que quand on regarde le classement final, ben Ocon finit 15e derrière Pierre Gasly et Hülkenberg qui finit avant-dernier des pilotes qui ont complété le Grand Prix. Ça a été assez compliqué, puis je pourrais compléter là-dessus. C'était une journée un peu plus difficile pour les équipes, pour les pilotes français, parce que on va faire le saut en Formule 2. Ben, Victor Martins a été disqualifié alors qu'il avait fini quatrième lors de la course principale de Formule 2 à Bakou. A été disqualifié pour infraction technique, je pense, au niveau du plancher. Donc, ouais, il a perdu sa quatrième place. Sinon, ben, toujours en Formule 2, ben, ça a été la fin de semaine de Oliver Bowman qui a obtenu la pole position avec une direction désaxée après avoir tapé le mur sur son avant-dernier tour. Et ça a été vraiment impressionnant. Il se plaint. J'avais regardé la qualif, puis il disait « Ah, j'ai des problèmes. La direction est un peu tordue. » Mais il a réussi quand même à obtenir la pole. Il va gagner le sprint qui était... Allez voir les fessayeurs du sprint. C'était exactement le crash fest qu'on attendait à Bakou. D'ailleurs, il a gagné devant Frédéric Vesti. Jack Crawford complète le podium et je crois qu'il y a eu 11 pilotes qui ont complété la course. 11 pilotes qui ont complété l'épreuve. C'était une course folle. Mais sinon, ça a été un peu plus tranquille dans la course principale. Ben, Bowman gagne devant Enzo Fittipaldi. Théo Pourchaire complète le podium. Frédéric Vesti, 4e. Kushmaini, 5e. Denis Hauger, 6e. Isaac Hadjar, 7e. Richard Virchow, 8e. Jack Crawford, 9e. Et Arthur Leclerc termine 10e. Et ça, c'est le classement pris en compte à la suite de la disqualification de Victor Martins. Au classement des pilotes, Théo Pourchaire mène le championnat avec 65 points. Frédéric Vesti est deuxième avec 62 points. Et Ayumu Iwasa qui n'a marqué aucun point lors de la course à Bakou. Dans les deux courses, en fait, à Bakou, il a été à la traîne, chute au troisième rang. Et Bowman se rapproche, il est quatrième avec 41 points. La prochaine épreuve, ce sera du 18 au 20 mai à Imola. et Marc-André, il y avait aussi une nouvelle série qui a fait ses débuts en fin de semaine. C'est la F1 Academy, qui est en fait le championnat 100%, un championnat 100% féminin avec 15 pilotes répartis en 5 équipes, donc 3 pilotes par équipe. Et c'était la première épreuve de la saison au Red Bull Ring à Spielberg en Autriche. Et Marta Garcia a remporté 2 des 3 courses qui ont eu lieu sur le circuit autrichien. Lors de la course 1, elle a gagné devant Bianca Bustamante et Jessica Edgar. Ensuite, dans la course 2, c'est Amna Al-Kubasi qui a gagné la course 2 devant Lena Buller. Dans la course 3, Garcia a gagné. Marta Garcia a gagné la course numéro 3. Abby Pulling avait obtenu les pole positions, mais fut disqualifiée pour règlement technique. Et heureusement, elle a fini 4e dans la course 1, 8e dans la course 2 et 4e dans la course numéro 3. Donc, ça a été une belle performance pour la pilote qui fait partie de l'Académie Alpine. Puis il y a aussi la Canadienne Megan Gilkes qui participe aussi à ce championnat. Elle a terminé 6e dans la course 1, 12e dans la course numéro 2 et 10e dans la course numéro 3. Et si vous voulez me savoir où regarder cette épreuve, la F1 Academy, c'est ça le problème. C'est pas diffusé en direct. Essayez pas de chercher. Vous allez avoir les faits saillants le lundi. Et c'est ça le problème. C'est qu'on peut pas voir les courses. Et on a tellement parlé de manque de visibilité pour les femmes, n'importe où dans le sport, et surtout en Formule 1, en course automobile. Mais là, quand il y a un championnat, surtout qui est géré par la Formule 1, on peut pas voir les courses en direct. Il y a, et si vous allez sur les réseaux sociaux de la F1 Academy, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, vous allez voir des faits saillants. Vous allez voir des images de la course, mais vous pouvez pas le regarder. Ce qui est dommage, mais probablement dû à des problèmes légaux. Je sais pas, de ce que j'ai pu lire un peu partout, là. Mais c'est dommage quand même, parce que je pense qu'une telle série, si on veut justement promouvoir avoir plus de femmes dans course automobile, leur donner justement de la visibilité, ce n'est pas un bon début. Et surtout que ce sera comme ça sur l'ensemble de la saison, sauf à Austin à la fin du mois d'octobre, parce que c'est la seule épreuve du calendrier qui ne fait pas partie du championnat du monde de la Formule 1. Austin est accueillant évidemment le Grand Prix des États-Unis. Donc, vous pourrez voir les faits saillants lundi sur une période de 15 minutes à peu près. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça a l'air d'une bonne série avec de bonnes pilotes en plus. Marta Garcia, Abby Pulling, entre autres, qu'on a vu dans la série W. Carrie Schreiner qui fait de la GT3. Les sœurs Al-Kubaisi aussi qui sont assez fortes aussi. Donc, ouais. Un peu déçu. Je suis un peu déçu. Mais bon. Mais je pourrais pas être aussi déçu que Jacques Villeneuve qui a malheureusement abandonné lors des 6 heures de Spa au championnat du monde d'endurance qui avait lieu samedi. Accrochage avec une Ferrari. Et encore une fois, c'est Toyota qui a obtenu le doublé. Et salutations à Julien. Antonio Giovinazzi et sa Ferrari ont obtenu un podium. Ouais. Ils ont obtenu un podium. Donc,
il doit être en train de courir dans la rue sous la pluie.
Ouais, certainement. certainement. Et moi, je te dirais... et avec la victoire de Marta Garcia aussi, monsieur, il est super content. Donc, j'espère que tu célèbres bien, Julien. Et aussi, félicitations à... Richard Mille à AF Corse Ferrari qui permet aussi à Lilou Wadou de devenir la première femme à remporter une course dans n'importe quelle catégorie du championnat du monde d'endurance. Donc ça, c'est un bel exploit auquel on a assisté en fin de semaine. Et c'était une magnifique course. Allez voir les faits saillants des 6 heures de Spa, qui était la dernière épreuve avant les fameux 24 heures du Mans qui auront lieu au mois de juin. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. On revient avec le format traditionnel de la fin de semaine, maintenant qu'on a fait notre pause pendant la Formule 1. Et on revient avec un fameux quiz. Donc, Marc-André, j'espère que tu es prêt pour cela. Et ce sera un quiz. Et on reviendra la semaine prochaine pour l'émission d'après-course du Grand Prix de Miami, qui sera en fait sous le format hebdomadaire. Donc, on reviendra là-dessus jeudi prochain. Donc, après le quiz, mettons. Donc,
parfait.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou sur Instagram, @lebulletingGP. Il y a aussi le groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez rejoindre. Et on vous invite évidemment à nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Partout où le Bulletin GP est disponible, passez le mot. Et parlez-en à vos amis. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là.
Un grand merci à toi encore. Ça a été un plaisir de participer à cet épisode.
Et j'espère que tu vas aller faire une sieste après ce Grand Prix.
Parce que... ouais, j'aurais dû en profiter pendant.
Ouais, effectivement, parce que là, on ferme tout ça après 10 heures. Il est officiellement 10 heures au moment où on enregistre. Bref, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve jeudi pour le quiz et dans 2 semaines et un autre jeudi pour revenir sur le Grand Prix de Miami. Salut tout le monde!
Salut à tous!